Le commentaire de
Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
Si tu veux nous parler des effets, des impacts négatifs, des conséquences néfastes du confinement, es-tu rendu un anti-masque?
Ben, tu vois, on se parlait toi et moi plus tôt cette semaine, puis j'avais évoqué l'intervention de d'un environnementaliste, là, son nom m'échappe en ce moment, je pensais pas parler de lui, mais où il parlait justement de ce qui se passait en Suède, puis il avait un regard qui était un petit peu plus critique, on l'avait
invité à Radio X. Ouais.
Puis là, c'est ce qui m'a frappé hier. J'écoutais l'excellente émission à la CBC Radio One qui s'appelle Has It Happens. Et puis c'est un regard sur l'actualité que j'aime beaucoup pour prendre des nouvelles de ce qui se passe dans le rest of Canada. Et je n'étais pas au courant qu'il y avait eu une lettre qui a fait beaucoup parler en Ontario. C'est plus d'une vingtaine de médecins, puis pas n'importe quel. L'ancienne chef de l'infectiologie de l'hôpital pour enfants malades de Ottawa, qui était là, Susan Richardson, et puis elle était en entrevue, et j'écoutais ça, puis je me disais, ben voilà exactement le genre de contre-discours qui est très intéressant. Ces médecins-là, et j'ai publié sur mes réseaux sociaux, donc, cette lettre-là, ces médecins-là ne sont pas contre le confinement, et ils ne contestent pas la science qui est derrière la COVID, c'est pas ça. Mais ils se sont arrêtés à plusieurs éléments qui sont absolument capitaux et qu'il faut comprendre quand on parle du confinement, notamment des effets sur la santé mentale, des dizaines de milliers de chirurgies qui sont reportées, dont certaines chez des gens qui ont des morbidités qui sont importantes et qui peuvent même causer plus de décès que la COVID elle-même. Et là, j'écoutais ça, puis je me disais, ben voilà ce qui nous amène, nous aussi, chez nous, à nous questionner par rapport à des effets collatéraux. Elle parlait des gens, la dépression, les suicides, tu sais, et c'est ça, je regardais chez nous, puis je me disais, mais des cris du cœur, on en voit beaucoup. Je lisais dans le journal, dans notre journal, Jean-Luc Boulay, le chef qu'on connaît bien, qui était à l'émission Les Chefs et tout ça,
oui.
Tu sais, puis il écrivait, il dit, ben, j'ai parlé à mon staff, j'ai appelé d'autres restaurateurs, malgré qu'il n'y a plus de touristes à Québec, mon restaurant allait quand même, tu sais, on s'en tirait, mais il dit là, on met la clé dans la porte pour 28 jours, soyons sérieux, tu sais, si ça s'étire jusqu'au printemps et tout ça, puis je veux dire, c'est morose, c'est tough sur la santé mentale.
Mais tu sais, hier, il y a eu une manif au Parc La Fontaine, puis il y a des gens qui disent, voyons donc, il y a plus de suicides qu'il y a eu une mort de la COVID et tout ça, mais ce discours-là, là, il va leur amener de l'eau au moulin quand même à ces gens-là, là.
Ben, en Ontario, en tout cas, ce que ça fait tout ça, c'est que dans la décision, parce qu'on n'est pas encore fixé ce qui va de tu sais, il n'y a pas eu encore un mouvement là comme il y a au Québec en ce moment de la part du gouvernement vers un confinement presque complet, là, parce que dans les zones rouges, là, c'est presque ça, on va pas jouer avec les mots. Et là, le gouvernement Ford, une lettre comme celle-là, ce que ça fait, ou une initiative comme celle-là, c'est que ça ajoute de l'eau au moulin. Ça va aider à la conversation. Je dis pas que c'est pas arrivé au Québec, là. Je suis certain que au sein de la santé publique, il y a des médecins, puis on va considérer ces éléments-là aussi. Puis il faut le dire, là, les situations sont pas nécessairement identiques en Ontario et au Québec. Mais j'ai trouvé quand même que cette lettre-là, c'était un gros coup. C'était quelque chose qui était intéressant dans ce que ça nous obligeait à nous questionner. Ça oblige les gens là-bas à se questionner sur tous les effets du confinement.
Donc c'est pas binaire, là. Tu sais, c'est ça qu'on essaie de dire. Là. C'est pas oui, je suis pour le confinement, puis j'écoute le gouvernement all the way. Ou de l'autre côté, t'as des gens qui veulent rien savoir, jamais porter le masque, quel que soit le contexte, qui se rencontrent au Parc La Fontaine, qui se lèchent la face, qui s'embrassent, puis tout ça.
Oui.
Toi, tu dis, il y a des questions légitimes à poser.
Et ce qui est intéressant aussi de la Dr. Richardson, ce qu'elle mentionnait, c'était que il faut être capable d'être réactif à la santé publique, et elle, ce qu'elle prônait, c'était des confinements qui sont très, très ciblés, dans des zones qu'on est capable d'identifier, et ce qu'on appelle le track and trace, le trace and track, là, c'est-à-dire être capable de faire des tests, de suivre, et d'identifier là où sont les éclosions, puis s'il y a des confinements à faire, de les faire là où c'est très, très ciblé, et surtout, elle a insisté sur un truc, on ne peut pas on ne peut pas contrôler la maladie. On va être obligé de vivre avec la maladie. Mmh. Et vivre avec la maladie, ça veut dire prendre et accepter certains risques, et ça veut dire aussi accepter que certaines personnes dans la société vont être touchées par cette maladie-là. Et un concept là avec lequel certains ont beaucoup de difficultés, mais qui est là quand même, l'immunité grégaire. C'est-à-dire, donc, le fait
mais
que...
Mais c'est ça, mais c'est-tu possible, ça, ou c'est pas possible? C'est-tu un mythe où ça se peut, là? L'immunité collective, l'immunité grégaire, ouais. C'est qu'il y a tellement de gens qui l'ont eu, puis qui sont plus après ça, qui l'ont eu, puis ils l'auront pu, ils sont immunisés, puis là, justement, ça va faire en sorte que le virus, à un moment donné, il n'y aurait plus personne à contaminer, puis il va mourir de sa belle mort.
Mais le problème avec ça, Richard, c'est que bien que ce ne soit pas le premier coronavirus de cette souche-là, le COVID-19, cette souche-là, je veux dire, c'est nouveau. Puis, bien entendu, il n'y a pas d'unanimité dans le monde médical là-dessus, comme sur plein d'autres questions, d'ailleurs. Et puis... Et quand on se pose cette question-là, on aimerait que les gens soient... la population aimerait parfois que on ait comme des certitudes, mais il n'y en a pas de certitudes. Il n'y a pas de certitudes par rapport aux vecteurs de transmission. J'écoutais hier un autre segment sur la COVID-19 où il y avait une médecin à RDI qui disait, ben il y a eu quelques études par rapport à la virulence des gouttelettes et tout ça. Puis quelqu'un qui est plus proche, il a peut-être été infecté par plus de gouttelettes. Est-ce que le virus serait plus virulent, puis elle Claire Tremblay, là, l'infectiologue qu'on entend souvent, docteur Tremblay en tout cas, puis là, elle disait, ben il y a eu quelques études qui ont essayé de se pencher là-dessus, mais c'est très difficile à étudier, fait qu'elle elle insistait, elle disait, ben tu sais, on peut pas conclure à ça, là, 100%, mais c'est pas une science parfaite non plus, la médecine, on peut pas dire, par exemple, que, on le sait absolument avec certitude par rapport à l'immunité grégaire.
Tout à fait, puis on peut se poser des questions. Écoute, hier, j'en parlais tantôt, là. Je suis allé au Musée des Beaux-Arts voir l'exposition sur les post-impressionnistes, OK? Bon, j'avais un billet pour 11 heures. J'ai attendu, il y avait une file. Ceux de 11 heures, là, t'attendais, puis tu respectais là, les 2 mètres. Tu mettais ton masque, puis là, après ça, ils te laissaient rentrer. Tu nettoyais les mains, mais tu pouvais pas rentrer tout de suite dans la salle. Ils attendaient que les gens passent à une autre salle, puis ils disaient, OK, tu peux y aller. C'était hyper sécuritaire. Puis je suis tombé devant une toile de Chagall, tellement belle, j'ai capoté, de la beauté, il y avait de la musique d'Éric Satie, ça me fait du bien à l'âme. Je me dis, voyons donc, fermer les musées, Christy, les restaurants, Chalot Resto hier, c'était, je mangeais avec ma blonde, il y avait des panneaux de plexiglas chaque côté, exactement comme le point de presse de François Legault hier, ils étaient séparés par des panneaux, c'était hyper sécuritaire aussi au restaurant, tu dis vraiment, fermer les restos, fermer les musées.
Je sais que c'est que c'est absolument tragique et on en parlait hier encore. Je veux dire pour les tenanciers de salles, pour tu sais, j'ai de la difficulté à me l'expliquer aussi. Et à l'intérieur, j'imagine des milliers de préoccupations que la santé publique, que le gouvernement a. Le pick and choose, dire bon ben lui va être ouvert puis lui il sera pas. C'est pas évident. Ouais. Je voudrais pas être placé dans cette situation là. À chaque fois, de toute façon, on le voit après la conférence de presse de François Legault et de ceux qui l'accompagnent là chaque jour, ben à un moment donné, les journalistes à toutes les antennes là ils vont dire bon ben voilà, on a une question, pourquoi tel type de commerce mais pourquoi pas l'autre, parce que à un moment donné, il y a des gens d'une industrie, on se souvient hein, au printemps, combien de fois l'industrie du camping n'arrêtait pas de dire et nous qu'est-ce qui va se passer, et nous qu'est-ce qui va se passer. Dans l'échelle des priorités du gouvernement, on peut probablement comprendre que ce petit lobby là important, c'est vrai là. Fait qu'imagine, là cette fois-ci c'était les gens de la chasse, les gens qui font qui, tu sais, puis moi chez nous le samedi ça rouvre la chasse. T'as pas idée à quel point c'est important dans mon coin. Écoute, je connais du monde là qui vont aller aux chanterelles puis qui vont ils vont aller aux champignons avant que la chasse commence là, parce qu'on s'entend que sinon t'es mieux de porter un gilet par balle, ça va tirer du fusil. Et c'est important, c'est une grosse industrie. Puis t'as des gens par exemple qui vont partir de Blainville qui sont dans une zone rouge, il me semble, tu sais, je le dis de, mais imaginons là, tu sais, t'es dans une zone rouge, t'as ton voyage de chasse, c'est ton année, tu veux pas manquer ça. Ça rouvre samedi. Ben, hier, il y a eu un petit mot du premier ministre, puis il a dit, ben, oui, la chasse, on va pouvoir y aller, faites vos emplettes avant, tout ça. Tu sais, il y a tellement de considérations.
Ah, je sais bien.
De faire,
c'est bien plus facile.
Moi, je suis suis un fan de ça. Partout où je voyage, je m'assure d'aller voir les musées. C'est essentiel.
Ben oui, mais tu sais, c'est facile d'être gérant d'estrade comme on l'est là. C'est pas. Est-ce qu'il y a du racisme systémique envers les autochtones? Sacrée bonne question.
Ben écoute, c'est ça. Hier, quand j'ai publié ça, puis j'ai voulu que mon texte soit construit comme ça. Tu sais, à la fin, je dis oui, effectivement. Donc, si une telle chose existe et elle existe, que le racisme systémique, dans son rapport, parce qu'on en parle beaucoup là, de le rapport de la commission Vient, le juge à la retraite Jacques Vient, lui il parle de discrimination systémique, mais partout dans le rapport, quand on lit les témoignages et tout ça. On le comprend. Il faut lire ce rapport-là. Il faut lire le chapitre 10 de ce rapport-là sur les services publics, notamment en santé. Je veux dire, moi, je pense à Stanley Volant, le premier. Il faut penser à ça quand même. Le premier chirurgien d'origine autochtone, 1994, c'est hier ça. Mmh. C'est Stanley Volant et là, c'est ça. Il y a un témoignage qui est relaté dans le rapport et puis il parle de gens, par exemple, de Pessamit puis de sa collectivité à lui puis qui disent qu'on faut aller à l'hôpital à Bécomo, tu sais. Puis là, t'as la peur d'un trip, tu veux pas y aller, c'est comme, c'est ça, le racisme systémique. Si on avait à le nommer, c'est ça. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, et j'en parlais, je reçois toutes sortes de commentaires, et ça, c'est revenu à quelques reprises. Bon, ben voilà, enfin, Fortin, tu t'es réveillé. Là, maintenant, tu vas pouvoir aussi, donc, dénoncer le racisme systémique de la loi 21.
C'est pas la même chose, c'est ça?
Pas la même chose. Et c'est là que moi je débarque et je vais me pencher là-dessus là parce que je veux écrire là-dessus parce que ces militants là et parce que c'est un projet politique. Là. Le systémique dans le racisme là au Québec, c'est un projet politique. C'est il y a vraiment des gens qui militent pour ça et bon grand bien leur fasse, mais on n'est pas obligé. Quand tu dis quand moi par exemple je peux adhérer au fait et je peux tout à fait défendre le fait qu'il y a du racisme systémique dans le système de la santé ou que les Premières Nations on fait face à du racisme systémique, mais du même coup dire il y a absolument rien de raciste dans le fait que le gouvernement du Québec légifère dans le sens de la laïcité comme il l'a fait. Mais c'est ça, c'est que ça manque de nuances. Et dans certains cas, l'espèce de projet politique là-dedans, c'est ceux qui, d'un bloc, vont dire, bon ben voilà, nous on veut que le gouvernement du Québec annonce ou se range à nos arguments que le Québec est raciste. Il y a du racisme systémique dans tout. T'sais, moi je débarque là, parce qu'il y a des nuances à apporter là-dedans, et souvent je trouve que ça manque de nuances.
Totalement. C'est pas parce qu'on dit oui, il y en a envers les Autochtones que nécessairement il y en a envers toutes les minorités, là, puis toutes les communautés non plus, là. Mais c'est vraiment scandaleux ce qui s'est passé. Puis le fait que, écoute, comme toi, c'est toi qui as mis ça sur Internet, là, on disait il y a un an qu'il y avait des problèmes dans cet hôpital-là.
Oui, et là, on apprend ce matin dans les pages du journal que le 23 août dernier, cette même dame-là, Joyce Equashan, est allée aussi, elle se tordait de douleur qu'il y a une dame qui habite Saint-Charles-Borromée, c'est tout juste à côté de l'hôpital, pour ceux qui connaissent un peu le coin, là. Cette dame-là était là, puis elle-même est préposée, d'après ce que j'ai compris, puis est allée voir parce qu'il y avait, je veux dire, faut pas l'oublier, là, ça excuse rien, mais tabarnouche que je vous dis, tu sais, t'es infirmière, là, dans un hôpital en ce moment, puis c'est vrai là que c'est une charge absolument là énorme, mais elle se tordait de douleur, cette dame-là, elle a crié jusqu'à 2h du matin, c'était la même dame, et on passait à côté d'elle, et elle relatait, là, la citoyenne de Saint-Charles-Borromée relatait que plusieurs fois elle a entendu, elle va-tu fermer sa gueule, puis elle va donc des commentaires, et à un moment donné, là, je veux dire, ça se peut pas. Et c'est ce que je dis dans mon texte aussi. Il y a une affaire là-dedans, moi, dont je suis absolument certain. Ce qu'on a entendu hier, ou ce qu'on a entendu là, par rapport à la mort de cette dame-là, de Manouane, là, c'était probablement pas la première fois qu'elle se faisait accueillir comme ça. Puis là, depuis ce qu'on entend, c'est que dans plusieurs hôpitaux du Québec, je veux dire, il y a des gens des Premières Nations qui ont vécu des expériences.
Mais oui, et là, il y a un mouvement comme MeToo, là, c'est-à-dire qu'on demande justement aux Autochtones, si vous avez vécu des expériences comme ça, dites-le, faites-en part, puis écoute, je pense que ça va être comme un feu de brousse, cette affaire-là.
Ben, il le faut, puis je veux dire, j'ai moi-même eu la chance, j'ai encore des amis qui sont autochtones, je pense à mes amis de Rapid Lake, par exemple, qui ont connu ça, qui voient ça, puis ça m'écœure de penser ça, mais c'est pas la même chose, et puis, je veux dire, quand t'es autochtone dans ce pays-ci, ben la discrimination, c'est pas juste une anecdote.
Tout
la discrimination, c'est systémique. Tu la vis. Tu existes dedans.
Merci, Steve. Puis écoute, j'invite les gens à aller lire là, ton fil Twitter, voir ta page Facebook, parce que tu relais souvent des informations qui ont passé sous le radar, parce que tu épluches, toi, plusieurs journaux, puis t'es comme ma revue de presse, hein, personnelle. Merci, Steve Fortin. Salut, bonne journée.